L'éducation sentimentale, première partie, fin du chapitre 5. Les dîners recommencèrent, et plus il fréquentait Madame Arnoux, plus ses langueurs augmentaient. La contemplation de cette femme l'énervait, comme l'usage d'un parfum trop fort. Cela descendit dans les profondeurs de son tempérament, et devenait presque une manière générale de sentir, un mode nouveau d'exister. Les prostituées qu'il rencontrait au feu du gaz, les cantatrices poussant leurs roulades, les écuyères sur leurs chevaux au galop, les bourgeoises à pied, les grisettes à leurs fenêtres, toutes les femmes lui rappelaient celles-là, par des similitudes ou par des contrastes violents. Il regardait, le long des boutiques, les cachemires, les dentelles et les pendeloques de pierreries, en les imaginant drapées autour de ses reins, cousu à son corsage, faisant des feux dans sa chevelure noire. À l'éventaire des marchandes, les fleurs s'épanouissaient pour qu'elle les choisît en passant. Dans la montre des cordonniers, les petites pantoufles de satin à bordure de cygne semblaient attendre son pied. Toutes les rues conduisaient vers sa maison. Les voitures ne stationnaient sur les places que pour y mener plus vite. Paris se rapportait à sa personne. Et la grande ville, avec toutes ses voix, bruissait comme un immense orchestre autour d'elle. Quand il allait au jardin des plantes, la vue d'un palmier l'entraînait vers des pays lointains. Ils voyageaient ensemble, au dos des dromadaires, sous le tendelé des éléphants, dans la cabine d'un yacht parmi des archipels bleus, ou côte à côte sur deux mulets à clochettes, qui trébuchent dans les herbes contre des colonnes brisées. Quelquefois, il s'arrêtait au Louvre, devant de vieux tableaux, et son amour l'embrassant jusque dans les siècles disparus, il la substituait au personnage des peintures. Coiffée d'un hennin, elle priait à deux genoux derrière un vitrage de plomb. Seigneuresse des Castilles ou des Flandres, elle se tenait assise, avec une fraise empesée et un corps de baleine à gros bouillons. Puis elle descendait quelques grands escaliers de porphyre au milieu des sénateurs, sous un dais de plumes d'autruche, dans une robe de brocart. D'autres fois, il la rêvait en pantalon de soie jaune, sur les coussins d'un harem. Et tout ce qui était beau, le scintillement des étoiles, certains airs de musique, l'allure d'une phrase, un contour, l'amenait à sa pensée d'une façon brusque et insensible. Quant à essayer d'en faire sa maîtresse, il était sûr que toute tentative serait vaine. Un soir, Dittmer, qui arrivait, la baisa sur le front. L'Ovaria fit de même en disant « Vous permettez, n'est-ce pas, selon le privilège des amis ?» Frédéric balbutia « Il me semble que nous sommes tous des amis. »« Pas tous des vieux, » reprit-elle. C'était le repousser d'avance, indirectement. Que faire, d'ailleurs? Lui dire qu'il l'aimait? Elle les conduirait sans doute. Ou bien, s'indignant, le chasserait de sa maison. Or, il préférait toutes les douleurs à l'horrible chance de ne plus la voir. Il enviait le talent des pianistes, les balafres des soldats. Il souhaitait une maladie dangereuse, espérant de cette façon l'intéresser. Une chose l'étonnait, c'est qu'il n'était pas jaloux d'Arnoux, et il ne pouvait se la figurer autrement que vêtu, tant sa pudeur semblait naturelle et reculait son sexe dans une ombre mystérieuse. Cependant, il songeait au bonheur de vivre avec elle, de la tutoyer, de lui passer la main sur les bandeaux longuement, ou de se tenir par terre, à genoux, les deux bras autour de sa taille, à boire son âme dans ses yeux. Il aurait fallu pour cela subvertir la destinée. Et, incapable d'action, maudissant Dieu et s'accusant d'être lâche, il tournait dans son désir comme un prisonnier dans son cachot. Une angoisse permanente l'étouffait. Il restait pendant des heures immobile, ou bien il éclatait en larmes. Et un jour qu'il n'avait pas eu la force de se contenir, des lauriers lui dit « Mais, saprelotte, qu'est-ce que tu as ?» Frédéric souffrait des nerfs. Des lauriers n'en crut rien. Devant une pareille douleur, il avait senti se réveiller sa tendresse, et il le réconforta. Un homme comme lui se laissait abattre? Quelle sottise! Passe encore dans la jeunesse, mais plus tard, c'est perdre son temps. « Tu me gâtes, mon Frédéric. Je redemande l'ancien. Garçon, toujours du même. Il me plaisait. Voyons, fume une pipe, animal. Secoue-toi un peu. Tu me désoles. » « C'est vrai, dit Frédéric. Je suis fou. » Le clerc reprit. « Ah, vieux troubadour, je sais bien ce qui t'afflige. Le petit cœur, avoue-le. Bah, une de perdue, quatre de trouvée. On se console des femmes vertueuses avec les autres. Veux-tu que je t'en fasse connaître, des femmes? Tu n'as qu'à venir à l'Alhambra. » C'était un bal public ouvert récemment au haut des Champs-Élysées et qui se ruina dès la seconde saison par un luxe prématuré dans ce genre d'établissement. « On s'y amuse à ce qu'il paraît. Allons-y. Tu prendras tes amis si tu veux. Je te passe même Regimbard. » Frédéric n'invita pas le citoyen. Des Lauriers se priva de Sénécal. Ils emmenèrent seulement Hussonnet et Sisy avec Dussardier, et le même fiacre les descendit tous les cinq à la porte de l'Alhambra. Deux galeries mauresques s'étendaient à droite et à gauche, parallèlement. Le mur d'une maison en face occupait tout le fond, et le quatrième côté, celui du restaurant, figurait un cloître gothique à vitraux de couleur. Une sorte de toiture chinoise abritait l'estrade où jouaient les musiciens. Le sol autour était couvert d'asphalte, et des lanternes vénitiennes accrochées à des poteaux formaient de loin, sur les quadrilles, une couronne de feu multicolore. Un piédestal, çà et là, supportait une cuvette de pierre, d'où s'élevait un mince filet d'eau. On apercevait dans les feuillages des statues en plâtre, Hébé ou Cupidon, tout gluant de peinture à l'huile. Et les allées nombreuses, garnies d'un sable très jaune, soigneusement ratissé, faisaient paraître le jardin beaucoup plus vaste qu'il ne l'était. Des étudiants promenaient leurs maîtresses, des commis en nouveauté se pavanaient, une canne entre les doigts, des collégiens fumaient des régalias, de vieux célibataires caressaient avec un peigne leur barbe teinte. Il y avait des Anglais, des Russes, des gens de l'Amérique du Nord, trois Orientaux en tarbouk. Des lorettes, des grisettes et des filles étaient venues là, espérant trouver un protecteur, un amoureux, une pièce d'or, ou simplement pour le plaisir de la danse. Et leurs robes à tunique vert d'eau, bleu, cerise ou violette passaient, s'agitaient entre les ébéniers et les lilas. Presque tous les hommes portaient des étoffes à carreaux, quelques-uns des pantalons blancs, malgré la fraîcheur du soir. On allumait les becs de gaz. Hussonnet, par ses relations avec les journaux de mode et les petits théâtres, connaissait beaucoup de femmes. Il leur envoyait des baisers par le bout des doigts, et de temps à autre, quittant ses amis, allait causer avec elles. Des Lauriers fut jaloux de ses allures. Il aborda cyniquement une grande blonde vêtue de nankin. Après l'avoir considérée d'un air maussade, elle dit « Non, pas de confiance, mon bonhomme !» et tourna les talons. Il recommença près d'une grosse brune, qui était folle sans doute, car elle bondit dès le premier mot en le menaçant, s'il continuait, d'appeler les sergents de ville. Des Lauriers s'efforça de rire. Puis, découvrant une petite femme assise à l'écart sous un réverbère, il lui proposa une contredanse. Les musiciens, juchés sur l'estrade, dans des postures de singes, raclaient et soufflaient impétueusement. Le chef d'orchestre, debout, battait la mesure d'une façon automatique. On était tassé, on s'amusait. Les brides dénouées des chapeaux effleuraient les cravates, les bottes s'enfonçaient sous les jupons. Tout cela sautait en cadence. Des Lauriers pressaient contre lui la petite femme et, gagné par le délire du cancan, se démenait au milieu des quadrilles comme une grande marionnette. Sisy et Dussardier continuaient leur promenade. Le jeune aristocrate lorgnait les filles et, malgré les exhortations du commis, n'osait leur parler, s'imaginant qu'il y avait toujours chez ces femmes-là un homme caché dans l'armoire avec un pistolet et qui en sort pour vous faire souscrire des lettres de change. Ils revinrent près de Frédéric. Des lauriers ne dansaient plus, et tous se demandaient comment finir la soirée, quand Hussonnet s'écria « Tiens, la marquise d'Amaegui !» C'était une femme pâle, à nez retroussé, avec des mitaines jusqu'au coude et de grandes boucles noires qui pendaient le long de ses joues, comme deux oreilles de chien. Hussonnet lui dit « Nous devrions organiser une petite fête chez toi, un raout oriental. Tâche d'herboriser quelques-unes de tes amies pour ces chevaliers français. Eh bien, qu'est-ce qui te gêne? Attendrais-tu ton hidalgo ?» L'Andalouse baissait la tête. Sachant les habitudes peu luxueuses de son amie, elle avait peur d'en être pour ses rafraîchissements. Enfin, au mot d'argent lâché par elle, Sisy proposa Saint-Napoléon, toute sa bourse. La chose fut décidée. Mais Frédéric n'était plus là. Il avait cru reconnaître la voix d'Arnouf, avait aperçu un chapeau de femme, et il s'était enfoncé bien vite dans le bosquet à côté. Mademoiselle Vatnaz se trouvait seule avec Arnoux. « Excusez-moi, je vous dérange ?»« Pas le moins du monde !» reprit le marchand. Frédéric, au dernier mot de leur conversation, comprit qu'il était accouru à l'Alhambra pour entretenir Mademoiselle Vatnaz d'une affaire urgente. Et sans doute, Arnoux n'était pas complètement rassuré, car il lui dit d'un air inquiet « Vous êtes bien sûr ?»« Très sûr, on vous aime. Ah, quel homme !» Et elle lui faisait la moue en avançant ses grosses lèvres, presque sanguinolentes à force d'être rouge. Mais elle avait d'admirables yeux fauves, avec des points d'or dans les prunelles, tout plein d'esprit, d'amour et de sensualité. Ils éclairaient comme des lampes, le teint un peu jaune de sa figure maigre. Arnoux semblait jouir de ses rebuffades. Il se pencha de son côté en lui disant « Vous êtes gentille, embrassez-moi !» Elle le prit par les deux oreilles et le baisa sur le front. À ce moment, les danses s'arrêtèrent, et à la place du chef d'orchestre parut un beau jeune homme, trop gras et d'une blancheur de cire. Il avait de longs cheveux noirs, disposés à la manière du Christ, un gilet de velours azur à grandes palmes d'or, l'air orgueilleux comme un paon, bête comme un dindon. Et quand il eut salué le public, il entama une chansonnette. C'était un villageois, narrant lui-même son voyage dans la capitale. L'artiste parlait bas normand, faisait l'homme saoul. Le refrain « Ah, j'ai tiri dans ce gueusard de Paris !» soulevait des trépignements d'enthousiasme. Delmas, chanteur expressif, était trop malin pour le laisser refroidir. On lui passa vivement une guitare et il gémit une romance intitulée « Le frère de l'Albanaise ». Les paroles rappelèrent à Frédéric celles que chantait l'homme en haillons entre les tambours du bateau. Ses yeux s'attachaient involontairement sur le bas de la robe étalée devant lui. Après chaque couplet, il y avait une longue pause, et le souffle du vent dans les arbres ressemblait au bruit des ondes. Mademoiselle Vatnaz, en écartant d'une main les branches d'un troène qui lui masquait la vue de l'estrade, contemplait le chanteur, fixement, les narines ouvertes, les cils rapprochés et comme perdu dans une joie sérieuse. « Très bien, » dit Arnoux. « Je comprends pourquoi vous êtes ce soir à l'Alhambra. Delmas vous plaît, ma chère. » Elle ne voulut rien avouer. « Ah, quelle pudeur !» Et montrant Frédéric, « Est-ce à cause de lui ? Vous auriez tort, pas de garçon plus discret. » Les autres, qui cherchaient leur ami, entrèrent dans la salle de verdure. Hussonnet les présenta. Arnoux fit une distribution de cigares et régala de sorbets la compagnie. Mademoiselle Vatnaz avait rougi en apercevant Dussardier. Elle se leva bientôt et, lui tendant la main, « Vous ne me remettez pas, monsieur Auguste ?»«
Comment la connaissez-vous ? » demanda Frédéric.
« Nous avons été dans la même maison, » reprit-il. Sisy le tirait par la manche, ils sortirent. Et à peine disparu, mademoiselle Vatnaz commença l'éloge de son caractère. Elle ajouta même qu'il avait le génie du cœur. Puis on causa de Delmas, qui pourrait, comme mime, avoir des succès au théâtre. Et il s'ensuivit une discussion où l'on mêla Shakespeare, la censure, le style, le peuple, les recettes de la Porte Saint-Martin, Alexandre Dumas, Victor Hugo et Dumersan. Arnoux avait connu plusieurs actrices célèbres. Les jeunes gens se penchaient pour l'écouter. Mais ses paroles étaient couvertes par le tapage de la musique. Et, sitôt le quadrille ou la polka terminée, tous s'abattaient sur les tables, appelaient le garçon, riaient. Les bouteilles de bière et de limonade gazeuse détonnaient dans les feuillages. Des femmes criaient comme des poules. Quelquefois, deux messieurs voulaient se battre. Un voleur fut arrêté. Au galop, les danseurs envahirent les allées. Haletant, souriant et la face rouge, ils défilaient dans un tourbillon qui soulevait les robes avec les basques des habits. Les trombones rugissaient plus fort. Le rythme s'accélérait. Derrière le cloître Moyen-Âge, on entendit des crépitations, des pétards éclatèrent. Des soleils se mirent à tourner. La lueur des feux de Bengale, couleur d'émeraude, éclaira pendant une minute tout le jardin. Et à la dernière fusée, la multitude exhala un grand soupir. Elle s'écoula lentement. Un nuage de poudre à canon flottait dans l'air. Frédéric et des lauriers marchaient au milieu de la foule, pas à pas, quand un spectacle les arrêta. Martinon se faisait rendre de la monnaie au dépôt des parapluies. Et il accompagnait une femme d'une cinquantaine d'années, laide, magnifiquement vêtue et d'un rang social problématique. « Ce gaillard-là, dit des lauriers, est moins simple qu'on ne suppose. Mais où est donc Sisy ?» Dussardier leur montra l'estaminet où ils aperçurent le fils des Preux devant un bol de punch en compagnie d'un chapeau rose. Hussonnet, qui s'était absenté depuis 5 minutes, reparut au même moment. Une jeune fille s'appuyait sur son bras en l'appelant tout haut « mon petit chat ». « Mais non, lui disait-il, non, pas en public. Appelle-moi vicomte plutôt. Ça vous donne un genre cavalier. Louis XIII et Bottemolle qui me plaît. Oui, mais bon, une ancienne. N'est-ce pas qu'elle est gentille ?» Il lui prenait le menton. « Salut ces messieurs, ce sont tous des fils de pairs de France. Je les fréquente pour qu'ils me nomment ambassadeur. »
« Comme vous êtes fou !» soupira mademoiselle Vatnaz.
Elle pria Dussardier de la reconduire jusqu'à sa porte. Arnoux les regarda s'éloigner, puis, se tournant vers Frédéric, « Vous plairait-elle, la Vatnaz ? Au reste, vous n'êtes pas franc là-dessus. Je crois que vous cachez vos amours. »
Frédéric, devenu blême, jura qu'il ne cachait rien.
« C'est qu'on ne vous connaît pas de maîtresse !» reprit Arnoux. Frédéric eut envie de citer un nom, au hasard. Mais l'histoire pouvait lui être racontée. Il répondit qu'effectivement, il n'avait pas de maîtresse. Le marchand l'en blâma.
« Ce soir, l'occasion était bonne. Pourquoi n'avez-vous pas fait comme les autres, qui s'en vont tous avec une femme ?»«
Eh bien, et vous ?» dit Frédéric, impatienté d'une telle persistance.
« Ah, moi, mon petit, c'est différent. Je m'en retourne auprès de la mienne. »
Il appela un cabriolet et disparut. Les deux amis s'en allèrent à pied. Un vent d'est soufflait. Ils ne parlaient ni l'un ni l'autre. Des lauriers regrettaient de n'avoir pas brillé devant le directeur d'un journal. Et Frédéric s'enfonçait dans sa tristesse. Enfin, il dit que le bastringue lui avait paru stupide.
« À qui la faute ? si tu ne nous avais pas lâchés pour ton Arnoux.
Bah, tout ce que j'aurais pu faire eût été complètement inutile. »
Mais Leclerc avait des théories. Il suffisait, pour obtenir les choses, de les désirer fortement.
« Cependant, toi-même, tout à l'heure... »«
Je m'en moquais bien, » fit Des Lauriers, arrêtant net l'allusion. « Est-ce que je vais m'empêtrer de femme ?»
Et il déclama contre leur mièvrerie, leur sottise. Bref, elle lui déplaisait.
« Ne pose donc pas, » dit Frédéric.
Des Lauriers se tut. Puis tout à coup, « Veux-tu parier 100 francs que je fais la première qui passe ?»«
Oui, accepté. »
La première qui passa était une mendiante hideuse, et ils désespéraient du hasard lorsqu'au milieu de la rue de Rivoli, ils aperçurent une grande fille portant à la main un petit carton. Des Lauriers l'accosta sous les arcades. Elle inclina brusquement du côté des Tuileries et elle prit bientôt par la place du carrousel. Elle jetait des regards de droite et de gauche. Elle courut après un fiacre. Des Lauriers la rattrapa. Il marchait près d'elle en lui parlant avec des gestes expressifs. Enfin, elle accepta son bras et ils continuèrent le long des quais. Puis, à la hauteur du Châtelet, pendant 20 minutes au moins, ils se promenèrent sur le trottoir, comme deux marins faisant leur quart. Mais tout à coup, ils traversèrent le pont au change, le marché aux fleurs, le quai Napoléon. Frédéric entra derrière eux. Des Lauriers lui fit comprendre qu'il les gênerait et n'avait qu'à suivre son exemple.
« Combien as-tu encore ?»«
2 pièces de 100 sous. »«
C'est assez. Bonsoir. »
Frédéric fut saisi par l'étonnement que l'on éprouve à voir une farce réussir.
« Il se moque de moi, » pensa-t-il. « Si je remontais... »
Des Lauriers croiraient peut-être qu'il lui enviait cet amour.
« Comme si je n'en avais pas un, et 100 fois plus rare, plus noble, plus fort. »
Une espèce de colère le poussait. Il arriva devant la porte de Madame Arnoux. Aucune des fenêtres extérieures ne dépendait de son logement. Cependant, il restait, les yeux collés sur la façade, comme s'il avait cru, par cette contemplation, pouvoir fendre les murs. Maintenant, sans doute, elle reposait, tranquille comme une fleur endormie, avec ses beaux cheveux noirs parmi les dentelles de l'oreiller, les lèvres entrecloses, la tête sur un bras. Celle d'Arnoux lui apparut. Il s'éloigna pour fuir cette vision. Le conseil de Des Lauriers vint à sa mémoire. Il en eut horreur. Alors il vagabonda dans les rues. Quand un piéton s'avançait, il tâchait de distinguer son visage. De temps à autre, un rayon de lumière lui passait entre les jambes, décrivait au ras du pavé un immense quart de cercle, et un homme surgissait dans l'ombre avec sa hotte et sa lanterne. Le vent, en de certains endroits, secouait le tuyau de tôle d'une cheminée. Des sons lointains s'élevaient, se mêlant au bourdonnement de sa tête, et il croyait entendre, dans les airs, la vague ritournelle des contredanses. Le mouvement de sa marche entretenait cette ivresse. Il se trouva sur le pont de la Concorde. Alors, il se ressouvint de ce soir de l'autre hiver, où, sortant de chez elle, pour la première fois, il lui avait fallu s'arrêter, tant son cœur battait vite sous l'étreinte de ses espérances. Toutes étaient mortes maintenant. Des nues sombres couraient sur la face de la lune. Il la contempla en rêvant à la grandeur des espaces, à la misère de la vie, au néant de tout. Le jour parut, ses dents claquaient, et à moitié endormi, mouillé par le brouillard et tout plein de larmes, il se demanda pourquoi n'en pas finir. Rien qu'un mouvement à faire. Le poids de son front l'entraînait. Il voyait son cadavre flottant sur l'eau. Frédéric se pencha. Le parapet était un peu large, et ce fut par lassitude qu'il n'essaya pas de le franchir. Une épouvante le saisit. Il regagna les boulevards et s'affaissa sur un banc. Des agents de police le réveillèrent, convaincus qu'il avait fait la noce. Il se remit à marcher.
mais comme il se sentait grand faim et que tous les restaurants étaient fermés, il alla souper dans un cabaret des Halles. Après quoi, jugeant qu'il était encore trop tôt, il flâna aux alentours de l'hôtel de ville jusqu'à 8h15. Des Lauriers avait depuis longtemps congédié sa donzelle, et il écrivait sur la table, au milieu de la chambre. Vers 4h, Monsieur de Sisy entra. Grâce à Dussardier, la veille au soir, il s'était tabouché avec une dame. Et même, il l'avait reconduite en voiture, avec son mari, jusqu'au seuil de sa maison, où elle lui avait donné rendez-vous. Il en sortait. On ne connaissait pas ce nom-là.
« Que voulez-vous que j'y fasse ?» dit Frédéric.
Alors le gentilhomme battit la campagne. Il parla de Mademoiselle Vatnaz, de l'Andalouse et de toutes les autres. Enfin, avec beaucoup de périphrases, il exposa le but de sa visite. Se fiant à la discrétion de son ami, il venait pour qu'il l'assistât dans une démarche après laquelle il se regarderait définitivement comme un homme. Et Frédéric ne le refusa pas. Il conta l'histoire à Des Lauriers, sans dire la vérité sur ce qui le concernait personnellement. Le clerc trouva qu'il allait maintenant très bien. Cette déférence à ses conseils augmenta sa bonne humeur. C'était par elle qu'il avait séduit, dès le premier jour, Mademoiselle Clémence Davioux, brodeuse en or pour équipement militaire, la plus douce personne qui fût, et svelte comme un roseau, avec de grands yeux bleus continuellement ébahis. Le clerc abusait de sa candeur, jusqu'à lui faire croire qu'il était décoré. Il ornait sa redingote d'un ruban rouge dans leur tête-à-tête, mais s'en privait en public, pour ne point humilier son patron, disait-il. Du reste, il la tenait à distance, se laissait caresser comme un pacha, et l'appelait « fille du peuple ». Par manière de rire. Elle lui apportait chaque fois de petits bouquets de violettes. Frédéric n'aurait pas voulu d'un tel amour. Cependant, lorsqu'il sortait bras dessus, bras dessous, pour se rendre dans un cabinet chez Pinson ou chez Barillot, il éprouvait une singulière tristesse. Frédéric ne savait pas combien, depuis un an, chaque jeudi, il avait fait souffrir Des Lauriers, quand il se brossait les ongles avant d'aller dîner rue de Choiseul. Un soir, que du haut de son balcon, il venait de les regarder partir, il vit de loin Hussonnet sur le pont d'Arcole. Le bohème se mit à l'appeler par des signaux, et Frédéric, ayant descendu ses 5 étages, « Voici la chose, c'est samedi prochain, 24, la fête de Madame Arnoux. »«
Comment, puisqu'elle s'appelle Marie ?»
Angèle aussi, n'importe, on festoiera dans leur maison de campagne à Saint-Cloud. Je suis chargée de vous en prévenir. Vous trouverez un véhicule à 3h au journal. Ainsi convenu. Pardon de vous avoir dérangé, mais j'ai tant de courses.
Frédéric n'avait pas tourné les talons que son portier lui remit une lettre.
Monsieur et Madame d'Ambreuse prient Monsieur F. Moreau de leur faire l'honneur de venir dîner chez eux samedi 24, courant, RSVP.
Trop tard, pensa-t-il.
Néanmoins, il montra la lettre à Des Lauriers, lequel s'écria
« Ah, enfin! Mais tu n'as pas l'air content, pourquoi ?»
Frédéric, ayant hésité quelque peu, dit qu'il avait le même jour une autre invitation.
« Fais-moi le plaisir d'envoyer bouler la rue de Choiseul. Pas de bêtises. Je vais répondre pour toi, si ça te gêne. »
Et le clerc écrivit une acceptation à la 3e personne. N'ayant jamais vu le monde qu'à travers la fièvre de ses convoitises, il se l'imaginait comme une création artificielle, fonctionnant en vertu de lois mathématiques. Un dîner en ville, la rencontre d'un homme en place, le sourire d'une jolie femme, pouvaient, par une série d'actions se déduisant les unes des autres, avoir de gigantesques résultats. Certains salons parisiens étaient comme ces machines qui prennent la matière à l'état brut et la rendent centuplée de valeur. Ils croyaient aux courtisanes conseillant les diplomates, aux riches mariages obtenus par les intrigues,
au génie des galériens, aux docilités du hasard sous la main des forts. Enfin, il estimait la fréquentation des Dambreuses tellement utile, et il parla si bien, que Frédéric ne savait plus à quoi se résoudre. Il n'en devait pas moins, puisque c'était la fête de Madame Arnoux, lui offrir un cadeau. Il songea naturellement à une ombrelle afin de réparer sa maladresse. Or, il découvrit une marquise en soie gorge pigeon à petits manches d'ivoire ciselé et qui arrivait de la Chine. Mais cela coûtait 175 francs et il n'avait pas un sou, vivant même à crédit sur le trimestre prochain. Cependant, il la voulait, il y tenait, et malgré sa répugnance, il eut recours à Deslauriers. Deslauriers lui répondit qu'il n'avait pas d'argent. « J'en ai besoin, » dit Frédéric, « grand besoin. » Et l'autre, ayant répété la même excuse, il s'emporta. « Tu pourrais bien, quelquefois... »«
Quoi donc ?»«
Rien. » Le clerc avait compris. Il leva sur sa réserve la somme en question, et quand il l'eut versée pièce à pièce, « Je ne te réclame pas de quittance, puisque je vis à tes crochets. » Frédéric lui sauta au cou avec 1000 protestations affectueuses. Deslauriers resta froid. Puis le lendemain, apercevant l'ombrelle sur le piano, « Ah, c'était pour cela !»«
Je l'enverrai peut-être, » dit lâchement Frédéric.
Le hasard le servit, car il reçut dans la soirée un billet bordé de noir et où Madame Dambreuse, lui annonçant la perte d'un oncle, s'excusait de remettre à plus tard le plaisir de faire sa connaissance. Il arriva dès 2 heures au bureau du journal. Au lieu de l'attendre pour le mener dans sa voiture, Arnoux était parti la veille, ne résistant plus à son besoin de grand air. Chaque année, aux premières feuilles, durant plusieurs jours de suite, il décampait le matin, faisait de longues courses à travers champs, buvait du lait dans les fermes, batifolait avec les villageoises, s'informait des récoltes et rapportait des pieds de salade dans son mouchoir. Enfin, réalisant un vieux rêve, il s'était acheté une maison de campagne. Pendant que Frédéric parlait au commis, Mademoiselle Vatnaz survint et fut désappointée de ne pas voir Arnoux. Il resterait là-bas encore 2 jours, peut-être. Le commis lui conseilla d'y aller. Elle ne pouvait y aller. D'écrire une lettre. Elle avait peur que la lettre ne fût perdue. Frédéric s'offrit à la porter lui-même. Elle en fit une, rapidement, et le conjura de la remettre sans témoin. 40 minutes après, il débarquait à Saint-Cloud. La maison, 100 pas plus loin que le pont, se trouvait à mi-hauteur de la colline. Les murs du jardin étaient cachés par 2 rangs de tilleuls et une large pelouse descendait jusqu'au bord de la rivière. La porte de la grille étant ouverte, Frédéric entra. Arnoux, étendu sur l'herbe, jouait avec une portée de petits chats. Cette distraction paraissait l'absorber infiniment. La lettre de Mademoiselle Vatnaz le tira de sa torpeur.
« Diable ! Diable ! C'est ennuyeux ! « Elle a raison, il faut que je parte. »
Puis, ayant fourré la missive dans sa poche, il prit plaisir à montrer son domaine. Il montra tout, l'écurie, le hangar, la cuisine. Le salon était à droite, et du côté de Paris, donnait sur une varangue en treillage chargée d'une clématite. Mais au-dessus de leur tête, une roulade éclata. Madame Arnoux, se croyant seule, s'amusait à chanter. Elle faisait des gammes, des trilles, des arpèges. Il y avait de longues notes qui semblaient se tenir suspendues. D'autres tombaient précipitées comme les gouttelettes d'une cascade. Et sa voix, passant par la jalousie, coupait le grand silence et montait vers le ciel bleu. Elle cessa tout à coup quand Monsieur et Madame Oudry, 2 voisins, se présentèrent. Puis elle parut elle-même au haut du perron. Et comme elle descendait les marches, il aperçut son pied. Elle avait de petites chaussures découvertes, en peau mordorée, avec 3 pattes transversales, ce qui dessinait sur ses bas un grillage d'or. Les invités arrivèrent. Sauf M. Le Faucheux, avocat, c'étaient les convives du jeudi. Chacun avait apporté quelques cadeaux. Dithmer, une écharpe syrienne, Rosenwald, un album de romance, Burieux, une aquarelle, Sombaz, sa propre caricature, et Pellerin, un fusain, représentant une espèce de danse macabre, hideuse fantaisie d'une exécution médiocre. Hussonnet s'était dispensé de tout présent. Frédéric attendit après les autres pour offrir le sien. Elle l'en remercia beaucoup. Alors il dit « Mais c'est presque une dette. J'ai été si fâchée. » « De quoi donc ? » reprit-elle. « Je ne comprends pas. » « À table !» fit Arnoux en le saisissant par le bras. Puis, dans l'oreille, « Vous n'êtes guère malin, vous !» Rien n'était plaisant comme la salle à manger, peinte d'une couleur vert d'eau. À l'un des bouts, une nymphe de pierre trempait son orteil dans un bassin en forme de coquille. Par les fenêtres ouvertes, on apercevait tout le jardin avec la longue pelouse que flanquait un vieux pin d'Écosse, aux trois quarts dépouillé. Des massifs de fleurs la bombaient inégalement, et au-delà du fleuve se développait en large demi-cercle le bois de Boulogne, Neuilly, Sèvres, Meudon. Devant la grille, en face, un canot à la voile prenait des bordées. On causa d'abord de cette vue que l'on avait, puis du paysage en général, et les discussions commençaient quand Arnoux donna l'ordre à son domestique d'atteler l'américaine vers les 9h30. Une lettre de son caissier le rappelait. « Veux-tu que je m'en retourne avec toi ?» dit Madame Arnoux. « Mais certainement !» Et en lui faisant un beau salut, « Vous savez bien, madame, qu'on ne peut vivre sans vous !» Tous la complimentèrent d'avoir un si bon mari. « Ah, c'est que je ne suis pas seule !» répliqua-t-elle doucement en montrant sa petite fille. Puis, la conversation ayant repris sur la peinture, on parla d'un Ruisdael, dont Arnoux espérait des sommes considérables, et Pellerin lui demanda s'il était vrai que le fameux Saül Mathias de Londres fut venu, le mois passé, lui en offrir 23 000 francs. « Rien de plus vrai !» Et, se tournant vers Frédéric, « C'est même le monsieur que je promenais l'autre jour à l'Alhambra, bien malgré moi, je vous assure, car ces Anglais ne sont pas drôles. » Frédéric, soupçonnant dans la lettre de Mademoiselle Vatnaz quelque histoire de femme, avait admiré l'aisance du sieur Arnoux à trouver un moyen honnête de déguerpir. Mais son nouveau mensonge, absolument inutile, lui fit écarquiller les yeux. Le marchand ajouta d'un air simple « Comment l'appelez-vous donc, ce grand jeune homme, votre ami ?»«
Des Lauriers, » fit vivement Frédéric.
Et pour réparer les torts qu'il se sentait à son endroit, il le vanta comme une intelligence supérieure. « Ah, vraiment ! Mais il n'a pas l'air si brave garçon que l'autre, le commis de roulage. » Frédéric maudit du Sardier. Elle allait croire qu'il frayait avec les gens du commun. Ensuite, il fut question des embellissements de la capitale, des quartiers nouveaux, et le bonhomme Oudry vint à citer, parmi les grands spéculateurs, M. D'Ambreuse. Frédéric, saisissant l'occasion de se faire valoir, dit qu'il le connaissait. Mais Pellerin se lança dans une catilinaire contre les épiciers. Vendeur de chandelles ou d'argent, il n'y voyait pas de différence. Puis, Rosenwald et Burieux devisèrent porcelaine. Arnoux causait jardinage avec Madame Oudry. Sombaz, loustic de la vieille école, s'amusait à blaguer son époux. Il l'appelait Audry, comme l'acteur. Déclara qu'il devait descendre d'Oudry, le peintre des chiens, car la bosse des animaux était visible sur son front. Il voulut même lui tâter le crâne. L'autre s'en défendait à cause de sa perruque. Et le dessert finit avec des éclats de rire. Quand on eut pris le café sous les tilleuls, en fumant, et fait plusieurs tours dans le jardin, on alla se promener le long de la rivière. La compagnie s'arrêta devant un pêcheur qui nettoyait des anguilles dans une boutique à poissons. Mademoiselle Marthe voulut les voir. Il vida sa boîte sur l'herbe et la petite fille se jetait à genoux pour les rattraper, riait de plaisir, criait d'effroi. Toutes furent perdues. Arnoux les paya. Il eut, ensuite, l'idée de faire une promenade en canot. Un côté de l'horizon commençait à pâlir, tandis que de l'autre, une large couleur orange s'étalait dans le ciel et était plus empourprée au faîte des collines, devenue complètement noire. Madame Arnoux se tenait assise sur une grosse pierre, ayant cette lueur d'incendie derrière elle. Les autres personnes flânaient, çà et là. Hussonnet, au bas de la berge, faisait des ricochets sur l'eau. Arnoux revint, suivi par une vieille chaloupe, où, malgré les représentations les plus sages, il empila ses convives. Elle sombrait. Il fallut débarquer. Déjà des bougies brûlaient dans le salon, tout tendu de perse, avec des girandoles en cristal contre les murs. La mère Oudry s'endormait doucement dans un fauteuil, et les autres écoutaient Monsieur Le Faucheux, dissertant sur les gloires du barreau. Madame Arnoux était seule près de la croisée. Frédéric l'aborda. Ils causèrent de ce que l'on disait. Elle admirait les orateurs. Lui, il préférait la gloire des écrivains. « Mais on devait sentir, reprit-elle, une plus forte jouissance à remuer les foules directement, soi-même, à voir que l'on fait passer dans leur âme tous les sentiments de la sienne. » Ces triomphes ne tentaient guère Frédéric, qui n'avait point d'ambition. « Ah, pourquoi ? » dit-elle. « Il faut en avoir un peu. » Ils étaient l'un près de l'autre, debout dans l'embrasure de la croisée. La nuit, devant eux, s'étendait comme un immense voile sombre, piqué d'argent. C'était la première fois qu'ils ne parlaient pas de choses insignifiantes. Il vint même à savoir ses antipathies et ses goûts. Certains parfums lui faisaient mal. Les livres d'histoire l'intéressaient. Elle croyait aux songes. Il entama le chapitre des aventures sentimentales. Elle plaignait les désastres de la passion, mais était révoltée par les turpitudes hypocrites. Et cette droiture d'esprit se rapportait si bien à la beauté régulière de son visage qu'elle semblait en dépendre. Elle souriait quelquefois, arrêtant sur lui ses yeux, une minute. Alors, il sentait ses regards pénétrer son âme, comme ces grands rayons de soleil qui descendent jusqu'au fond de l'eau. Il l'aimait sans arrière-pensée, sans espoir de retour, absolument. Et dans ces muets transports, pareils à des élans de reconnaissance, il aurait voulu couvrir son front d'une pluie de baisers. Cependant, un souffle intérieur l'enlevait comme hors de lui. C'était une envie de se sacrifier, un besoin de dévouement immédiat, et d'autant plus fort qu'il ne pouvait l'assouvir. Il ne partit pas avec les autres, Hussonnet non plus. Il devait s'en retourner dans la voiture, et l'Américaine attendait au bas du perron quand Arnoux descendit dans le jardin pour cueillir des roses. Puis, le bouquet étant lié avec un fil, comme les tiges dépassaient inégalement, il fouilla dans sa poche, pleine de papiers, en prit un au hasard, les enveloppa, consolida son œuvre avec une forte épingle et il l'offrit à sa femme, avec une certaine émotion. « Tiens, ma chère, excuse-moi de t'avoir oubliée. » Mais elle poussa un petit cri. L'épingle, sottement mise, l'avait blessée et elle remonta dans sa chambre. On l'attendit près d'un quart d'heure. Enfin, elle reparut, enleva Marthe, se jeta dans la voiture. « Et ton bouquet ?» dit Arnoux. « Non, non, ce n'est pas la peine. » Frédéric courait pour l'aller prendre. Elle lui cria « Je n'en veux pas !» Mais il l'apporta bientôt, disant qu'il venait de le remettre dans l'enveloppe, car il avait trouvé les fleurs à terre. Elle les enfonça dans le tablier de cuir contre le siège et l'on partit. Frédéric, assis près d'elle, remarqua qu'elle tremblait horriblement. Puis, quand on eut passé le pont, comme Arnoux tournait à gauche,
Mais non, tu te trompes. Par là, à droite. »
Elle semblait irritée. Tout la gênait. Enfin, Marthe ayant fermé les yeux, elle tira le bouquet et le lança par la portière, puis saisit au bras Frédéric en lui faisant signe avec l'autre main de n'en jamais parler. Ensuite, elle appliqua son mouchoir contre ses lèvres et ne bougea plus. Les deux autres, sur le siège, causaient imprimerie, abonnés. Arnoux, qui conduisait sans attention, se perdit au milieu du bois de Boulogne. Alors on s'enfonça dans de petits chemins. Le cheval marchait au pas, les branches des arbres frôlaient la capote. Frédéric n'apercevait de Madame Arnoux que ses deux yeux dans l'ombre. Marthe s'était allongée sur elle et il lui soutenait la tête.
« Elle vous fatigue ?» dit sa mère. Il répondit « Non, oh non !»
De lents tourbillons de poussière se levaient. On traversait Auteuil. Toutes les maisons étaient closes. Un réverbère, çà et là, éclairait l'angle d'un mur, puis on rentrait dans les ténèbres. Une fois, il s'aperçut qu'elle pleurait.
Était-ce un remords? Un désir?
Quoi donc?
Ce chagrin qu'il ne savait pas l'intéressait comme une chose personnelle.
Maintenant, il y avait entre eux un lien nouveau, une espèce de complicité.
Et il lui dit, de la voix la plus caressante qu'il put,
« Vous souffrez ?»«
Oui, un peu, » reprit-elle.
La voiture roulait, et les chèvrefeuilles et les seringas débordaient les clôtures des jardins, envoyaient dans la nuit des bouffées d'odeurs amollissantes. Les plis nombreux de sa robe couvraient ses pieds. Il lui semblait communiquer avec toute sa personne par ce corps d'enfant étendu entre eux. Il se pencha vers la petite fille et, écartant ses jolis cheveux bruns, la baisa au front, doucement.
« Vous êtes bon, » dit Madame Arnoux.
« Pourquoi ?»«
Parce que vous aimez les enfants. »
« Pas tous. »
Il n'ajouta rien, mais il étendit la main gauche de son côté et la laissa toute grande ouverte, s'imaginant qu'elle allait faire comme lui, peut-être, et qu'il rencontrerait la sienne. Puis il eut honte et la retira. On arriva bientôt sur le pavé. La voiture allait plus vite, les becs de gaz se multiplièrent. C'était Paris. Hussonnet, devant le garde-meuble, sauta du siège. Frédéric attendit pour descendre que l'on fût arrivé dans la cour. Puis il s'embusqua au coin de la rue de Choiseul et aperçut Arnoux qui remontait lentement vers les boulevards. Dès le lendemain, il se mit à travailler de toutes ses forces. Il se voyait dans une cour d'assises, par un soir d'hiver, à la fin des plaidoiries, quand les jurés sont pâles et que la foule haletante fait craquer les cloisons du prétoire, parlant depuis 4 heures déjà, résumant toutes ses preuves, en découvrant de nouvelles, et sentant à chaque phrase, à chaque mot, à chaque geste, le couperet de la guillotine, suspendu derrière lui, se relever. Puis, à la tribune de la chambre, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, noyant ses adversaires sous ses prosopopées, les écrasant d'une riposte avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironique, pathétique, emportée, sublime. Elle serait là, quelque part, au milieu des autres, cachant sous son voile ses pleurs d'enthousiasme. Ils se retrouveraient ensuite, et les découragements, les calomnies et les injures ne l'atteindraient pas si elle disait « Ah, cela est beau !» en lui passant sur le front ses mains légères. Ces images fulguraient comme des phares à l'horizon de sa vie. Son esprit, excité, devint plus leste et plus fort. Jusqu'au mois d'août, il s'enferma et fut reçu à son dernier examen. Des lauriers, qui avaient eu tant de mal à lui seriner encore une fois le deuxième à la fin de décembre et le troisième en février, s'étonnaient de son ardeur. Alors les vieux espoirs revinrent. Dans 10 ans, il fallait que Frédéric fût député. Dans 15, ministre. Pourquoi pas, avec son patrimoine qu'il allait toucher bientôt. Il pouvait d'abord fonder un journal, ce serait le début. Ensuite, on verrait. Quant à lui, il ambitionnait toujours une chaire à l'école de droit. Et il soutint sa thèse pour le doctorat d'une façon si remarquable qu'elle lui valut les compliments des professeurs. Frédéric passa la sienne 3 jours après. Avant de partir en vacances, il eut l'idée d'un pique-nique pour clore les réunions du samedi. Il s'y montra gai. Madame Arnoux était maintenant près de sa mère à Chartres, mais il la retrouverait bientôt et finirait par être son amant. Deslauriers, admis le jour même à la Parlotte d'Orsay, avait fait un discours fort applaudi. Quoiqu'il fût sobre, il se grisa et dit au dessert du Sardier « Tu es honnête, toi. Quand je serai riche, je t'instituerai mon régisseur. » Tous étaient heureux. Sizi ne finirait pas son droit. Martinon allait continuer son stage en province, où il serait nommé substitut. Pellerin se disposait à un grand tableau figurant le génie de la Révolution. Hussonnet, la semaine prochaine, devait lire au directeur des délassements le plan d'une pièce et ne doutait pas du succès. Car la charpente du drame, on me l'accorde. Les passions, j'ai assez roulé ma bosse pour m'y connaître. Quant au trait d'esprit, c'est mon métier. Il fit un saut, retomba sur les 2 mains et marcha quelque temps autour de la table, les jambes en l'air. Cette gaminerie ne dérida pas Sénécal. Il venait d'être chassé de sa pension pour avoir battu un fils d'aristocrate. Sa misère augmentant, il s'en prenait à l'ordre social, maudissait les riches. Et il s'épancha dans le sein de Reginbard, lequel était de plus en plus désillusionné, attristé, dégoûté. Le citoyen se tournait maintenant vers les questions budgétaires et accusait la Camarilla de perdre des millions en Algérie. Comme il ne pouvait dormir sans avoir stationné à l'estaminet Alexandre, il disparut dès 11 heures. Les autres se retirèrent plus tard. Et Frédéric, en faisant ses adieux à Hussonnet, apprit que Madame Arnoux avait dû revenir la veille. Il alla donc aux messageries changer sa place pour le lendemain, et vers 6 heures du soir se présenta chez elle. « Son retour, lui dit le concierge, était différé d'une semaine. » Frédéric dîna seul, puis flâna sur les boulevards. Des nuages roses en forme d'écharpe s'allongeaient au-delà des toits. On commençait à relever les tentes des boutiques. Des tombereaux d'arrosage versaient une pluie sur la poussière et une fraîcheur inattendue se mêlait aux émanations des cafés, laissant voir par leurs portes ouvertes, entre des argenteries et des dorures, des fleurs en gerbe qui se miraient dans les hautes glaces. La foule marchait lentement. Il y avait des groupes d'hommes causant au milieu du trottoir, et des femmes passaient avec une mollesse dans les yeux et ce teint de camélia que donne aux chairs féminines la lassitude des grandes chaleurs. Quelque chose d'énorme s'épanchait, enveloppait les maisons. Jamais Paris ne lui avait semblé si beau. Il n'apercevait dans l'avenir qu'une interminable série d'années toutes pleines d'amour. Il s'arrêta devant le théâtre de la Porte Saint-Martin à regarder l'affiche et, par désœuvrement, prit un billet. On jouait une vieille féerie. Les spectateurs étaient rares. Et dans les lucarnes du paradis, le jour se découpait en petits carrés bleus, tandis que les quinquets de la rampe formaient une seule ligne de lumière jaune. La scène représentait un marché d'esclaves à Pékin, avec clochettes, tam-tam, sultanes, bonnets pointus et calembours. Puis, la toile baissée, il erra dans le foyer, solitairement, et admira sur le boulevard, au bas du perron, un grand landau vert, attelé de 2 chevaux blancs, tenu par un cocher en culotte courte. Il regagnait sa place, quand, au balcon, dans la première loge d'avant-scène, entrèrent une dame et un monsieur. Le mari avait un visage pâle, bordé d'un filet de barbe grise, la rosette d'officier, et cet aspect glacial qu'on attribue aux diplomates. sa femme, de 20 ans plus jeune pour le moins, ni grande ni petite, ni laide ni jolie, portait ses cheveux blonds tire-bouchonnés à l'anglaise, une robe à corsage plat et un large éventail de dentelle noire. Pour que des gens d'un pareil monde fussent venus au spectacle dans cette saison, il fallait supposer un hasard, ou l'ennui de passer leur soirée en tête-à-tête. La dame mordillait son éventail et le monsieur bâillait. Frédéric ne pouvait se rappeler où il avait vu cette figure. À l'entracte suivant, comme il traversait un couloir, il les rencontra tous les deux. Sur le vague salut qu'il fit, M. Dambreuse, le reconnaissant, l'aborda et s'excusa tout de suite de négligence impardonnable. C'était une allusion aux cartes de visite nombreuses envoyées d'après les conseils du clerc. Toutefois, il confondait les époques, croyant que Frédéric était à sa seconde année de droit. Puis, il l'envia de partir pour la campagne. Il aurait eu besoin de se reposer, mais les affaires le retenaient à Paris. Madame Dambreuse appuyait sur son bras, inclinait la tête légèrement, et l'aménité spirituelle de son visage contrastait avec son expression chagrine de tout à l'heure. « On y trouve pourtant de belles distractions, » dit-elle au dernier mot de son mari. « Comme ce spectacle est bête, n'est-ce pas, monsieur ?» Et tous trois restèrent debout, à cause des théâtres et pièces nouvelles. Frédéric, habitué aux grimaces des bourgeoises provinciales, n'avait vu chez aucune femme une pareille aisance de manière. Cette simplicité, qui est un raffinement, et où les naïfs aperçoivent l'expression d'une sympathie instantanée. On comptait sur lui dès son retour. M. Dambreuse le chargea de ses souvenirs pour le père Roch. Frédéric ne manqua pas, en rentrant, de conter cet accueil à des lauriers. « Fameux !» reprit le clerc, « et ne te laisse pas entortiller par ta maman. Reviens tout de suite. » Le lendemain de son arrivée, après leur déjeuner, Madame Moreau emmena son fils dans le jardin. Elle se dit heureuse de lui voir un état, car il n'était pas aussi riche que l'on croyait. La terre rapportait peu, les fermiers payaient mal. Elle avait même été contrainte de vendre sa voiture. Enfin, elle lui exposa leur situation. Dans les premiers embarras de son veuvage, un homme astucieux, M. Roch, lui avait fait des prêts d'argent, renouvelés, prolongés, malgré elle. Il était venu les réclamer tout à coup, et elle avait passé par ses conditions, en lui cédant à un prix dérisoire la ferme de Presles. 10 ans plus tard, son capital disparaissait dans la faillite d'un banquier à Melun. Par horreur des hypothèques et pour conserver des apparences utiles à l'avenir de son fils, comme le père Roch se présentait de nouveau, elle l'avait écouté encore une fois. Mais elle était quitte maintenant. Bref, il leur restait environ 10 000 francs de rente, dont 2 300 à lui, tout son patrimoine.
« Ce n'est pas possible !» s'écria Frédéric.
Elle eut un mouvement de tête signifiant que cela était très possible.
« Mais son oncle lui laisserait quelque chose ?»
Rien n'était moins sûr. Et ils firent un tour de jardin sans parler. Enfin, elle l'attira contre son cœur, et d'une voix que les larmes étouffaient, « Ah, mon pauvre garçon, il m'a fallu abandonner bien des rêves !»
Il s'assit sur le banc à l'ombre du grand acacia. Ce qu'elle lui conseillait, c'était de se mettre clair chez M. Prouaram, avoué, lequel lui céderait son étude. S'il la faisait bien valoir, il pourrait la revendre et trouver un bon parti. Frédéric n'entendait plus. Il regardait machinalement par-dessus la haie dans l'autre jardin, en face. Une petite fille d'environ 12 ans, et qui avait les cheveux rouges, se trouvait là, toute seule. Elle s'était fait des boucles d'oreilles avec des baies de sorbier. Son corset de toile grise laissait à découvert ses épaules, un peu dorées par le soleil. Des taches de confiture maculaient son jupon blanc.
et il y avait comme une grâce de jeune bête sauvage dans toute sa personne, à la fois nerveuse et fluette. La présence d'un inconnu l'étonnait, sans doute, car elle s'était brusquement arrêtée, avec son arrosoir à la main, en dardant sur lui ses prunelles d'un vert bleu limpide. « C'est la fille de Monsieur Rock, » dit Madame Moreau. « Il vient d'épouser sa servante et de légitimer son enfant. »